Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Claude Janvier. Claude Janvier, vous êtes écrivain, polémiste, un rien provocateur, doté d'un humour noir et disciple de Pierre Desproges. Vous êtes l'auteur de trois livres coup de gueule, dont Le virus et le président, coécrit avec Jean-Loup Isambert. Depuis 15 ans, vous fouillez, déterrez, décortiquez et analysez l'actualité afin de mettre à jour les véritables informations. Vous intervenez dans plusieurs médias indépendants. Claude Janvier, bienvenue à France Liberté.
Et merci beaucoup, bien bonjour à vous et merci effectivement de m'inviter, c'est très gentil à vous.
Je vous en prie, alors avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et abonnez-vous aussi au canal France Liberté sur Telegram. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur franceliberté.tv. Alors, Claude Janvier, j'ai passé votre livre un petit peu à la moulinette. J'ai pas eu énormément de temps, mais j'ai pu attraper un peu l'essentiel. Donc, il y a beaucoup d'informations dans ce livre. La première chose qui m'a un petit peu étonné, c'est que au niveau du titre, vous l'avez appelé donc le virus du président. Et il y a quand même beaucoup d'informations. C'est un petit peu on va dire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé ces dernières décennies en France sur les privatisations, le pillage des fonds publics. Donc il y a beaucoup d'informations. Comment vous voyez un petit peu la chose?
Si vous voulez, en fait, un petit retour en arrière. En 2019, donc Jean-Loup et moi, on travaillait donc sur une grande enquête qu'on faisait en commun sur l'état de la France et puis l'état aussi de l'Europe par ricochet, donc au niveau industriel, économique, social et culturel. Donc on a beaucoup cherché, on a beaucoup enquêté, c'était des faits, des chiffres, etc. Et on était prêt à l'envoyer à un éditeur quand tout à coup en 2020, patatras, a éclaté cette crise sanitaire, entre guillemets. Et donc, bien évidemment, il a fallu qu'on reprenne tout à zéro et qu'on écrive évidemment sur cette fameuse crise, cette fameuse pandémie, entre guillemets. Mais en réalité, c'est pour ça que le titre s'appelle Enquête sur une des plus grandes tromperies de l'histoire, c'est que cette crise économique, industrielle, sociale et culturelle existait bien avant l'arrivée du Covid. Disons que l'arrivée providentielle, entre guillemets, de ce virus permet de masquer, c'est bien pratique pour tous les gouvernements européens de masquer malheureusement une triste réalité, c'est que déjà depuis plusieurs décennies, il y a un pilonnage systématique, par exemple, de l'industrie, des grosses industries européennes, et notamment donc de la France, puisque je suis français, j'habite donc en France. Mais il y a donc un pilonnage systématique et un pillage systématique de l'industrie en France, mais c'est une politique voulue. Tout comme il y a un pillage d'ailleurs que l'on met en exergue dans notre livre, un pillage systématique voulu par Bruxelles d'ailleurs, de tout le système de soins au niveau européen. C'est pour ça que toute l'Europe, et là je dis bien toute l'Europe, a mis un frein au budget alloué aux hôpitaux publics, ce qui fait que ça a amené énormément de pays européens à réduire considérablement les budgets, donc à investir très peu dans les hôpitaux publics, et c'est comme ça qu'on se retrouve une situation catastrophique, c'est-à-dire très peu de lits en urgence, par exemple, dans les sections urgentistes. Donc les sections d'urgence sont facilement débordées puisqu'il y a très peu de lits. En plus, il y a une désertification médicale dans notre pays. Aujourd'hui, vous voulez prendre un rendez-vous avec un spécialiste, vous en avez pour 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc les gens, bah, ils vont aux urgences. Ah, évidemment, il y en a quelque chose dans l'urgence. Donc tout ça, c'est un phénomène voulu et que l'on met en exergue évidemment dans notre livre. Alors après, cette fameuse crise du coronavirus, bien pratique parce que ça a tout caché. Ah ben mon Dieu, c'est plus la faute de personne, c'est la faute du petit virus, vous savez, du petit Covid qui est arrivé là, subrepticement et qui a mis tout le monde à plat. Alors il est vrai que la gestion calamiteuse et catastrophique de tous les gouvernements de la planète, j'ai l'impression, à part quelques pays, font que cette crise économique, malheureusement, qui était déjà bien réelle, est en train de s'aggraver, c'est-à-dire que là, on a énormément de gens qui sont précipités de plus en plus au chômage, de petits commerces qui vont fermer, de petites PME, etc. Donc voilà, voilà un peu ce qui nous a amené à Jean-Loup, un peu mon complice et co-auteur, de revoir un peu notre copie et de publier donc en 2020 une analyse à la fois donc sur les décennies passées et à la fois sur une bonne moitié de cette crise soi-disant pandémique.
Alors, vous parlez de gestion calamiteuse. Bon, j'ai vu à plusieurs endroits de votre livre, on parle souvent, il est fait référence à une forme d'incompétence, d'incurie. Mais je veux dire, on sait depuis des décennies qu'il y a un agenda derrière tout ça. Donc, ce n'est pas le fait du hasard. Je veux dire, mais à aucun moment, j'ai vu dans votre livre quelque chose de. On parle plus, enfin, vous parlez plus des symptômes que des causes. La vraie cause de toute cette situation, c'est quelque chose de prémédité qui est dans le pipe depuis longtemps, depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, Pierre Hillard en parle dans son bouquin sur la philosophie politique de l'oligarchie. On ne peut pas prendre tout ce qui arrive aujourd'hui comme simplement une incompétence. Au contraire, ils sont très, très compétents. Ils font exactement ce que leur commanditaire leur demande de faire. Et la destruction du système hospitalier français n'est pas le fait du hasard. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais j'en pense que vous avez tout à fait raison. Hein. Vous êtes tout à fait dans le vrai. Si vous voulez, en un volume, bon, notre volume, déjà, il fait 250 pages. On ne pouvait pas le doubler, c'est-à-dire on ne pouvait pas publier 500 pages parce que qui aujourd'hui aurait le courage quand même de lire un pavé de 500 pages. Donc de toute façon, c'est vrai que ce volet que vous venez d'évoquer, nous allons largement le développer dans un autre livre parce que évidemment mon complice et moi, on ne s'arrête pas en si bon chemin, on est en train d'écrire un autre ouvrage qui va traiter largement de ce que vous évoquez, y compris d'ailleurs du fameux livre qu'a publié Klaus Schwab, vous êtes en train de parler de plans et d'agenda, bah, le livre qu'a publié Klaus Schwab, le fondateur de Davos, qui est Covid-19 ou le Grand Reset ou la Grande Réinitialisation, traite largement du plan. Donc effectivement, on va le traiter. C'est vrai, on va le traiter, tout comme on est aussi en préparation d'un petit opus sur bah, toute cette corona circus et voilà. En plus, si vous voulez, je suis en train d'écrire la chronologie, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, aussi bien en positif, mais il n'y en a pas beaucoup, des points positifs, et en négatif de toute cette pandémie depuis le 15 mars, où la France et comme les pays du monde ont été précipités dans le confinement. Et c'est très intéressant. J'ai fait un travail assez complet et maintenant, j'ai plus qu'à rajouter ce qui se passe tous les jours. Mais quand vous faites une chronologie comme ça, vous vous rendez encore plus compte de la... Je ne sais même pas comment je pourrais qualifier ça, du côté... illogique et du côté totalement stupide, ubuesque et de tout cette gestion. En fait, on est en plein terrorisme viral. Hein. Je pense que c'est un terme très approprié. Voilà, ça, on va le traiter, on est en train de le traiter. Mais décemment, comme c'est quand même un sujet qui demande beaucoup quand même d'enquête, de faits de chiffres, parce que quand on commence à parler espèce de mondialisme et d'un complot entre guillemets mondial, il faut être très précis parce que sinon vous pouvez vite vous faire accuser de complotisme, remarquez aujourd'hui c'est le mot à la mode, mais il faut être précis avec des faits, des chiffres, etc. Donc voilà, on est en train de travailler dessus et on va faire en sorte de le publier, de le faire publier cet automne qui arrive l'automne prochain, voire l'hiver prochain. Mais on le fait.
Est-ce que ça vous poserait un problème de vous faire étiqueter de complotiste?
Ah non, pas du tout. Bah, de toute façon, je me suis déjà fait étiqueter de complotiste. Hein. De toute façon, complotiste, c'est un mot fourre-tout aujourd'hui qui ne veut plus rien dire. Vous savez, dès que vous posez des questions, en fait,
vous êtes étiqueté de complotiste. Donc, sachant que les complots font partie de l'humanité, et ce serait très naïf de croire qu'il n'y en a jamais eu de complot. Au contraire, nous sommes truffés de complots.
façon, voilà. Et puis le mot a été déformé, il ne veut plus même dire ce qu'il voulait dire au départ. Enfin, c'est devenu très facile aujourd'hui. Dès que vous n'êtes plus d'accord, vous levez le petit doigt, vous dites « Ah, attendez, là, je suis… Ah, complotiste. Bon. » Vous direz, il y a quelque temps, on se faisait traiter de facho aussi. Et dès que vous n'étiez plus d'accord, « Ah, vous, le facho !» Bon, ça va, là, au bout d'un moment, si vous voulez, bon, on commence à être blindé. Hein. C'est presque flatteur de se faire traiter de complotiste aujourd'hui.
Alors, à un moment dans votre livre, vous parlez des médias, vous dites que en fait, c'est la nouvelle religion, ces médias agissent comme les chiens de garde du pouvoir et qu'ils agissent comme une forme de religion, c'est une forme de secte qui disent aux gens ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des médias mainstream? Quelles sont les solutions que vous envisagez éventuellement pour réformer les médias, parce qu'on est vraiment dans une situation de très très grande propagande maintenant.
C'est devenu très complexe et très compliqué. Les médias mainstream aujourd'hui, donc pour la France, hein, mais de toute façon pour les pays d'Europe, c'est un peu le même cas de figure. Déjà, elles sont toutes subventionnées par l'État. Donc déjà, et même Le Monde d'ailleurs, le grand quotidien, ce qui fut le grand quotidien français, un des grands quotidiens français, parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas, se fait même subventionner par Bill Gates, vous savez, Bill Gates, l'humaniste américain, soi-disant, etc. etc. Donc il faut voir quand même que toute la presse française est aux mains déjà de milliardaires puissants, puisqu'ils sont tous plus ou moins dans le CAC 40 déjà, donc les entreprises françaises, les grosses entreprises françaises. Donc ils sont tous injectés avec des millions d'euros, parce que sinon, de toute façon, ils n'existeraient plus. Donc à partir du moment où ils sont financés, évidemment, ils sont aux ordres. Et à partir du moment où ils sont aux ordres, bah, ils publient ce qu'on leur dit de publier. En plus, même si vous avez aujourd'hui de temps en temps un vrai journaliste, c'est-à-dire un journaliste qui se dirait « bon, il faudrait que j'arrive quand même à publier quelque chose, d'une enquête précise, etc. » Mais même si le gars, il est honnête et qu'il voudrait le faire, de toute façon, il va se faire sabrer à un moment donné ou à un autre par sa rédaction. Et après, il n'a pas trop le choix. Il se dit « si, enfin si, il a deux choix. Soit il continue… » Et donc son article passe plus ou moins au pilon, ou alors il est déformé et puis il n'est plus du tout dans le mode original, ou alors le gars il claque la porte, il s'en va et il devient journaliste indépendant. Mais là aussi, ça comporte certains risques, si vous voulez. Aujourd'hui, le problème, c'est que les médias mainstream cèdent la propagande gouvernementale. C'est uniquement ça. D'ailleurs, notre livre, qui est quand même un livre qui n'est pas… je veux dire, c'est des enquêtes, des faits, des chiffres. Je veux dire, bah, vous l'avez lu, vous voyez bien, avec la grande presse mainstream en France n'a pas daigné faire une seule ligne, écrire une seule ligne sur le sujet ou nous interviewer dans une radio, une grosse radio, j'entends. Tous les interviews que nous avons fait, Jean-Louis et moi, et tous les articles que nous avons lus, c'est grâce à des gens comme vous, c'est-à-dire des médias libres ou alternatifs, qui nous ont fait le plaisir de nous publier nos différents articles que nous avons écrits sur le sujet et qui nous ont aidés à promouvoir notre livre. Parce que sinon, effectivement, la grande presse, la presse mainstream, rien, un silence assourdissant. Mais pas uniquement pour nous, je vois bien ce qui se passe en analysant pour d'autres écrivains ou même des vidéos. Aujourd'hui, vous vous faites interviewer par une vidéo, par un média libre, faut faire quelquefois attention, parce que dès que ça passe sur YouTube aujourd'hui vous sanctionne. Je pense que vous êtes au courant, récemment France Soir, qui est devenu donc un journal très intéressant, puisque c'est maintenant un des rares journaux qui a été revu et corrigé par son directeur, et qui expriment donc des opinions et des faits aussi qui sont en dehors de la grande presse, se sont vus complètement blacklistés, si on peut employer un terme anglophone, par YouTube récemment. C'est-à-dire toutes les interviews qu'ils avaient faites sur YouTube ont été supprimées du jour au lendemain, dont la mienne d'ailleurs, puisqu'il fait de toute façon, il m'avait interviewé. C'était très sympa et je les en remercie. Et puis tout d'un coup, YouTube a censuré toutes leurs vidéos. Mais il y en a un autre comme ça, il y a Planète 360 aussi. À lui, c'est pareil, il a interdit YouTube pendant 30 jours. Il a interdit YouTube jusqu'à la fin du mois de mai. Donc on a vraiment un gros problème aujourd'hui, c'est une grosse censure. Donc aujourd'hui, c'est vrai Qu'est-ce qu'on a comme moyen d'information un peu libre? Ben, on a les médias libres alternatifs et puis de temps en temps les réseaux sociaux. Et encore, il faut se méfier parce que les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook censurent de plus en plus, puisque même Twitter avait quand même censuré Donald Trump. Alors après, on peut être pour ou contre Trump, je ne rentre même pas dans le débat, mais enfin, quand même censurer le compte du président des États-Unis d'Amérique. Waouh, faut quand même le faire, quand même. Moi, je n'avais jamais vu ça. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une situation préoccupante parce que les médias mainstream sont aux mains du gouvernement. Voilà le problème.
Est-ce que vous pensez que les Français sont vraiment perméables à cette forme de propagande, cette communication qui ressemble étrangement au régime nazi? Ce matin, j'ai vu sur BFM TV qu'il y avait un compteur en bas à droite de l'écran qui indiquait le nombre de Français vaccinés. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes?
Ah ben j'en pense de moi, ben déjà, BFM TV, vous savez, c'est déjà du lourd. C'est vraiment de la propagande. C'est de la propagande, c'est ça. C'est de la propagande à l'échelle de ce qui s'est déjà passé dans des régimes totalitaires. Mais ça, tout à fait. Alors, les gens s'en rendent. Alors, c'est un peu intéressant parce que moi, je discute des fois avec l'épicier du coin, je discute avec un vendeur dans un magasin, peu importe. Et je me rends compte d'une chose, c'est que malheureusement, on va dire à 75-80%, les gens sont… ça floue où ils en sont. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu une propagande horrible et qui existe toujours d'ailleurs, sur tous les jours que Dieu fait, si vous ouvrez les grands médias, vous êtes bombardé par une propagande systématique qui finit par mettre les gens un peu en état de choc et en état de peur. Et les gens ne savent plus s'ils doivent se faire vacciner, s'ils ne doivent pas se faire vacciner. Et quand vous analysez un peu c'est un peu une guerre des chiffres aussi. C'est très habile, les médias mainstream, parce que c'est vraiment une histoire de propagande. C'est dur. À une petite échelle, vite fait, vous savez, au début, quand il y a eu cette histoire de virus qui est apparue, on nous a balancé le chiffre des morts, des décès. Ah mon Dieu, etc. Puis bon, comme ça n'augmentait pas très vite le chiffre des décès, etc. Ah, là, ils nous ont passé le chiffre des gens qui arrivaient en réanimation. Ah mon Dieu, alors on a eu des photos terribles, les gens intubés, machin. Bon, bref, alors comme ça a choqué, mais bon, ça n'augmentait pas toujours. Alors après, on nous a balancé le chiffre des hospitalisations. Ah, alors après, on nous a balancé le chiffre des tests en masse, avec l'arnaque, entre parenthèses, des tests PCR, parce qu'aujourd'hui, il est prouvé, même l'OMS d'ailleurs vient de titrer qu'il y a une arnaque au niveau des tests PCR. Ensuite, on nous a fait le coup des cas contacts. Ah mon Dieu, vous êtes peut-être un cas contact parce que oh là, vous avez été en contact. Bon, bref, on ne sait plus. Alors après, là, il n'y a pas si longtemps, ah, c'est les variants. Ah, le Covid variant. Alors on a d'abord eu le variant anglais. So British, mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ils nous ont fait le coup du variant sud-africain. Bon, celui-là, il est plus chaud, il est en bas, mais bon, voilà. Et puis, on nous a fait le coup du mutant. Alors là, le virus, il est mutant. Et puis, on nous a fait le coup du virus mutant hyper contagieux. Et puis, on nous a fait le coup du virus mutant hors de contrôle. Et puis là, on nous fait le coup des Covid longs. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi ils sont atteints des Covid longs. Bon, pourquoi pas? Et là, on vient de nous faire le coup du variant breton. Mon Dieu, entre le Chouchen et le Quigaman, enfin, si vous connaissez un peu les spécialités bretonnes, on se dit, mais mon Dieu, ils vont aller où?
Je suis à moitié breton, donc oui, effectivement, je connais le Quigaman.
Donc, vous connaissez le Quigaman.
Oui.
Mais je veux dire, ça devient... Alors, comment voulez-vous que des gens qui souvent, malheureusement pour eux, ne s'informent que via... Alors là, je parle pour la France... Ne s'informent que via TF1, le journal télévisé de TF1 ou le journal télévisé de France 2. Comment voulez-vous que les gens arrivent à penser autrement que ce que les... Alors, je ne vais pas les dédouaner non plus, parce que si on veut comprendre, on peut. Hein. Bon. Mais quand même, ça veut dire que tous les soirs, ces braves gens, à 20h, paf, ils ont le journal télévisé qui leur apprend, mon Dieu.
Oh, c'est en fait un rituel de programmation mentale, ce n'est pas autre chose.
C'est ça, mais malheureusement, ces braves gens ne vont pas s'informer, pas forcément s'informer, sur par exemple des chaînes de télé comme la vôtre ou d'autres. ils restent dans leur TF1. Enfin, alors moi, chaque fois que je peux discuter avec des gens, je leur dis, mais hey, attendez, vous avez aussi d'autres médias, vous savez, vous avez d'autres médias qui vont vous informer quand même sur autre chose. Prenez le temps de... Alors, ben voilà, c'est un peu un travail de colibri, vous savez, petit oiseau, mais je me dis qu'après tout, bon, il faut le faire parce que je m'aperçois quand même que ce n'est pas facile. Puis les gens sont à peur, là, aujourd'hui. C'est un peu... Ils sont... C'est difficile. Donc voilà, il faut vraiment aujourd'hui remonter tout ça et faire comprendre conscience aux gens que de toute façon, il y a maintenant, c'est maintenant, il faut intérêt, on a intérêt à se rebeller parce que si on ne va pas dans la rue, je ne parle pas de violence, je parle d'être dans la rue pour manifester son mécontentement, on ne va pas y arriver. Hein. Voilà. Mais bon, donc il faut pousser, là on pousse, là. Il faut vraiment pousser, continuer.
Alors, juste par rapport à... Bon, vous faites référence à l'Europe de nombreuses fois dans votre livre. Il y a Philippe de Villiers qui a écrit un livre il y a assez récemment sur la création de l'Europe. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'informations classifiées qui indiquent que Jean Monnet et Robert Schuman étaient des agents de la CIA et qui, en fait, sont derrière la création de l'Europe. Donc, la création de l'Europe est avant tout un fait américain des services de renseignement, et ce qui permet aussi d'expliquer tout le déroulement des événements et ces dernières décennies. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Ah, j'en pense que oui, de toute façon, c'est évident. Bah, d'ailleurs, je vous parlais d'un autre ouvrage sur lequel on est en train de travailler avec Jean-Loup et qui va comporter aussi ce volet, le volet que vous évoquez, parce qu'il y a vraiment une influence états-unienne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une influence états-unienne de plus en plus prépondérante en Europe, parce qu'il y a... C'est un fait, c'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup d'entreprises déjà ont été cédées, je parle pour la France toujours, bah, par exemple Alstom a été offert en cadeau à General Electric. Il y a plein de faits qui se passent, qu'il y a vraiment une volonté de faire main basse sur l'Europe par les grands financiers états-uniens. C'est un fait. D'ailleurs, Bruxelles est totalement inféodé à l'Europe, aux États-Unis, parce que ce que beaucoup de gens peut-être ne savent pas, c'est que dans la Commission européenne à Bruxelles, ce ne sont pas les députés européens qui votent les lois. Les députés européens sont là pour débattre et faire un peu le paraître, si vous voulez. En réalité, ceux qui entérinent vraiment les lois à Bruxelles, ce sont les commissaires que vous ne voyez pas, ce sont des technocrates, ce sont eux qui tamponnent et qui avalent, soit qui donnent leur aval, soit pour une loi, soit pas. Le député, lui, va le présenter, en débattre, etc. Mais la décision finale, elle en revient aux commissaires. Que commissaires qui ne sont pas élus, d'ailleurs, par le peuple, entre parenthèses, qui sont juste des technocrates qui sont placés là. Ce qu'il faut comprendre aussi, d'ailleurs, puisque vous évoquez le sujet de l'Europe inféodée aux États-Unis, c'est que déjà, la France a ratifié le fameux CETA, vous savez, l'accord canadien-européen. Donc, la France l'a ratifié, d'ailleurs, grâce à notre super ministre de l'écologie, Barbara Pompili, qui a dit, voilà, moi, je m'abstiens, je vote ni pour ni contre. Ouais, enfin, je ne sais pas, quand on est vraiment écolo, il fallait voter contre. Mais enfin, bon, passons. Et nous avons le TAFTA, le traité transatlantique, qui nous promenait, parce que celui-là, il n'a pas encore été ratifié, mais bon, le fameux CETA l'a été. Malheureusement, le TAFTA, un beau jour, ça risque de nous tomber dessus. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'à partir du moment où ce grand traité va être voté, c'est que quand vous aurez un litige entre une grande entreprise américaine et une entreprise française, ça ne va plus être jugé par un tribunal, et ça, les gens ne le savent pas. Ça va être jugé par une entreprise privée. Ce qui veut dire que le droit commercial ne va plus exister. Donc là, c'est la grande porte ouverte sur une hégémonie totale des USA. De toute façon, les USA, c'est quoi ? Ces pays anglo-saxons, ce sont des gens qui, depuis leur création, c'est quand même une nation qui est en guerre. Ils n'ont jamais arrêté d'envoyer des bombes ou de guerroyer aux quatre coins de la planète. Le seul mandat, à ma connaissance, où ça n'a pas été fait ou très peu, c'est Trump. Alors, je suis pareil, je ne vais pas, je vais pas dire que Trump était un génie et tout. En revanche, ce qu'on a pu observer, c'est quand même, c'est le seul président US qui, pour l'instant, n'a bombardé personne. Parce que Biden, aussitôt élu, il vient de faire bombarder le nord de la Syrie. Chercher l'erreur. Donc, c'est vrai que la politique états-unienne, vraiment, c'est la peste, hein, la peste, vraiment.
Alors, on a interviewé récemment Arnaud Ipinski, qui est un petit peu spécialiste des anglo-saxons, donc il parle de prédateurs et qu'il n'y a rien de très nouveau là-dedans, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont rien vraiment inventé et qui ont toujours été aussi jaloux de la France, de cette capacité de création et ces merveilles, parce qu'on est quand même l'un des pays les plus spécialisé dans l'art et la culture au monde. Je crois que, comme il le disait, dans un seul département en France, il y a plus d'art que dans toute la Chine. Donc, mais Arnaud Ipinski s'est particulièrement penché comme ça, un linguiste spécialiste du langage. C'est aussi un historien des sciences. Il s'est particulièrement penché sur le côté ingénierie sociale et sémantique, l'inversion du langage. Qu'est-ce que vous pensez justement de la sémantique qui est utilisée pour hypnotiser les Français et leur dire l'inverse de ce qu'ils font? On voit qu'il y a en fait, lui, il développe cette théorie qui n'est pas d'aujourd'hui entre les réalistes qui croient à la vérité des mots et les nominalistes qui croient au pouvoir des mots. Donc c'est une inversion totale du langage, donc il faut interpréter complètement à l'inverse de ce que les politiciens disent. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
J'ai écouté cette vidéo en fait et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est exactement, mais alors exactement ce que je pense et ce que mon complice et co-auteur Jean-Loup pensons, puisqu'on va le développer dans notre prochain, un aspect qu'on va développer dans notre prochain ouvrage, justement sur cette espèce déjà de globiche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'exprime plus déjà en français, c'est une espèce de globiche, c'est-à-dire que nous avons des termes anglais qui ont de plus en plus infiltré la langue française. Donc, et d'ailleurs, ça va même beaucoup plus loin que ça, puisque vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'entreprises assez importantes en France, où les cadres sont obligés d'écrire leurs rapports en anglais. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des cadres français dans une grosse entreprise sont obligés quand même d'écrire en anglais, ce qui est quand même un comble. Après, j'avais trouvé sa vidéo très intéressante parce que c'est tout à fait ça. Il a tout à fait raison. Ça veut dire qu'il y a vraiment une destruction systématique de notre culture,
de la langue
française, absolument, donc de la francophonie en général. Et c'est une destruction systématique. D'ailleurs, il suffit de voir le niveau aujourd'hui malheureusement dans les lycées et collèges en France pour s'apercevoir que c'est de plus en plus catastrophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un bac qui est quasiment donné puisque ce diplôme qui, il y a quelques quand même décennies en arrière, voulait et valait quelque chose. Aujourd'hui, franchement, on en fait quasiment cadeau. Je sais que nos énarques en poste veulent détruire totalement l'orthographe, la grammaire. Maintenant, on en est à l'écriture inclusive. Non, mais on croit rêver et on rêve pas, malheureusement. Aujourd'hui, il est pratiquement admis qu'on écrive comme quand on écrit un SMS, c'est-à-dire avec des mots qui c'est qui, alors qui, KI, et c'est qui. Non, mais on sait même plus. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui réalisent pas qu'en écrivant ce genre de SMS, au bout d'un moment, ils l'écrivent aussi quand il faut une lettre. Et là, vous dites, mais attendez, il réalise le garçon, là, que... Et puis, même dans un SMS, vous pouvez écrire qui, QI, qui est-ce, ou je sais pas. Enfin, là, la formulation correcte, c'est parce qu'on est pressé. Puis voilà. Donc, mais il a tout à fait raison, et c'est très insidieux parce que c'est comme ça que notre culture fout le camp. Et là, Emmanuel Macron est encore plus responsable que même ses prédécesseurs, parce que, bon, je ne sais pas que je vais rouler pour Sarkozy, qui était, il y a deux décennies, président de la République, et François Hollande l'avant-dernier, parce que c'est de là... Depuis ces deux-là, on a vraiment un déclin qui s'est vraiment accentué en France. Mais alors Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, je me rappelle avec effroi en 2018 à la fête de la musique à l'Élysée, quand il a invité des espèces de DJ. Alors, j'ai regardé une vidéo, je voyais les paroles, vous savez, les paroles étaient sous-titrées. Mon Dieu, j'ose même pas dire avec vous, c'est en dessous la ceinture. Donc, vous imaginez déjà le langage et vous vous dites, waouh, ce sont des DJ qui étaient dans le palais de l'Élysée en France. Wow. Et après, il a fait venir un groupe, alors un groupe, bon. Que les gars soient débridés presque, je m'en fous, mais à partir du moment où, à condition qu'ils aient du talent. Or là, zéro talent, mais c'est nul, mais c'est, j'ai jamais vu, mais c'est, je sais même pas où ils ont trouvé un groupe, si on peut appeler ça un groupe de musique d'ailleurs, je sais même pas où ils ont été le chercher celui-là, quoi. Mais franchement, et je me dis, waouh, on a un président et son épouse, ils ont invité ce genre-là. Wow. Et là, franchement, il n'y a quand même pas que moi qui a réagi, on en est resté. Mais j'en suis pas revenu encore.
Alors justement, on peut voir ça comme un crime clairement prémédité qui est la destruction des valeurs culturelles. Ça se voit partout, ça se voit dans l'art. Il y a une dégénérescence totale des valeurs pour brouiller les cartes, brouiller les repères. Les gens sont en une très grande confusion. On a eu également en interview Lucien Cerise qui nous a parlé un petit peu de cette fameuse ingénierie sociale et cette cybernétique. C'est quand même beaucoup plus redoutable que ce qu'on peut imaginer parce que c'est présent partout dans tous les domaines de la société et ça castre les cerveaux, ça castre l'intelligence. Qu'est-ce que vous pensez quelles sont les réactions, les solutions à apporter à ça? Parce que là, on est vraiment dans une science très sophistiquée de manipulation de la population. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais je pense que de toute façon, c'est vrai, on est en plein dedans. Malheureusement, nous sommes en plein là-dedans. Bon, vous savez, des solutions pour en sortir, il n'y en a pas 36 millions à un moment donné. Il y a le Frexit, d'une part. Moi, je suis convaincu que tant qu'on va être enchaîné dans cette Europe, on va pas y arriver, puisque l'Europe est sous Bruxelles et que Bruxelles est sous les États-Unis. Donc, à un moment donné, on va pas y arriver. Donc, en plus, la France est quand même un des pays majeurs dans l'UE. Donc, OK, si la France sort de l'UE, Frexit. Ah, alors déjà, ça va secouer un peu le panier. Et à mon avis, il faut qu'on reprenne notre souveraineté, etc. Après, une fois qu'on a fait ça, il faut virer toutes ces espèces de, comment dire, de psychologues, ce bobo, je sais pas, qui ont envenimé, qui ont complètement désaxé toute notre culture, etc. Faut faire le grand ménage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un artiste, il a le droit de s'exprimer, mais à partir du moment où ça tient la route. Moi, j'ai rien contre les accoutrements les plus originaux, à partir du moment où il y a du talent. Et s'il n'y a pas de talent, ça suffit, quoi. Aujourd'hui, quoi, la popularité couronne les romans dégradés de plus en plus, c'est-à-dire que on en est vraiment sur le nombre de livres qui sortent, mais il y en a vraiment, mais c'est même pas à évoquer, et pourtant c'est édité. Dans le monde du cinéma, mon Dieu, c'est pas mieux. Aujourd'hui, on assiste à...
Vous êtes d'accord que le personnel politique et le monde artistique, de manière générale, on va parler du cinéma à l'instant, qui sont dans une sorte de plan de débilitation des Français?
Absolument. Mais tout comme absolument. Mais tout comme la télévision d'ailleurs est sur le même plan d'abêtissement des Français. Vous savez, ça ne va pas. À partir du moment où vous propulsez aussi des émissions comme en France, les Marseillais ou je ne sais pas quoi, les Ch'tis, vous voyez des mecs avec les abdos, les petites nanas en string, machin, ou Koh-Lanta, bah mon Dieu, Koh-Lanta, bah oui, bah voyons. Alors après, on va me dire, bah oui, ça détend. Bah non, mais c'est navrant, moi ça ne me détend pas. Honnêtement, je trouve ça de plus en plus affligeant et de toute façon, ce n'est pas ça qui fait monter le quotient intellectuel de chaque Français. Hein. Ça, c'est sûr. Ça va plutôt abattir tout le monde. Ça, c'est d'une évidence absolue.
Qu'est-ce que vous pensez de la modification des programmes depuis 1968 pour supprimer la formation classique, la grammaire, la dialectique, l'éloquence, etc. pour canaliser les talents pour pas qu'il y ait des gens trop intelligents qui sont en lettres, par exemple, qui est en fait une menace au pouvoir en place?
Ah ben je pense que c'est criminel, c'est-à-dire que c'est une politique criminelle depuis les années 68, oui, effectivement. C'est tout à fait criminel. Quand vous voyez le niveau en 68 et quand vous voyez le niveau aujourd'hui culturel, non mais attendez, c'est presque pour employer un mot à la mode, on hallucine. Vous savez, moi je me suis présenté, j'étais, attendez voir, un rapide calcul, j'étais en cinquième, donc voilà. Je me suis présenté en candidat libre à l'époque pour le certificat d'études primaires, qui allait être supprimé l'année d'après. Puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais faire ça. J'étais tellement sûr que, parce que c'était ce qu'il faut comprendre, et je rejoins ce que vous dites, ça veut dire qu'à l'époque, ce certificat d'études primaires, qui était un examen très complet, en fait, à l'époque, parce qu'on apprenait les mathématiques, les sciences, l'algèbre, etc., etc., le français, était vraiment décrié par tous les intellos bobos, etc. Oh, ça vaut rien. Oh, c'est plus à considérer. Donc, moi, en cinquième, j'étais quand même assez jeune. Bon, c'est pas que j'avais, je m'étais dit, bah oui, ça vaut rien. Donc, j'ai rien révisé du tout. Je suis arrivé à cet examen, je me suis étalé, je l'ai pas eu. Merde, je me suis dit, bah mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'année d'après, je me suis piqué au jeu, je dis quand même, c'est la dernière année, après, il n'existera plus le diplôme. Je vais le passer. Alors, j'ai un peu bossé, quand même, il a fallu que je bosse un peu, que je révise un peu mes calculs. Vous savez, les baignoires qui se remplissent avec des fuites d'eau, donc après, il faut calculer les litres. Enfin, c'est pas évident du tout. Ou les deux trains qui se rencontrent, il y en a un qui part à telle vitesse, machin, etc. J'ai bossé, et ben je l'ai eu, mais je vais vous dire, honnêtement, il a fallu que je bosse. Et c'est là que je me suis rendu compte que pour avoir ce diplôme, à l'époque, il fallait quand même avoir une certaine instruction dans beaucoup de domaines complets. Alors évidemment, ils ont voulu le supprimer, mais ils l'ont supprimé, parce que justement, c'était trop complet comme diplôme. C'était plus assez bien considéré. Donc après, il fallait le BEPC. Bon, bah, le BEPC, après, évidemment, tout le monde l'a passé, mais enfin, à l'époque, ceux qui allaient jusqu'en troisième. Mais ça montrait bien qu'il y avait vraiment. C'était voulu, c'était une politique voulue. Et on le voit bien aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que j'avais lu une petite enquête, alors je ne me souviens plus, c'était du pourcentage exact, je ne me souviens plus bien. Mais ce que je me souviens, en tout cas, c'est que quand vous avez sur 100 élèves qui sont en troisième, par exemple, en France, qui lisent un texte, vous en avez quasiment un énorme pourcentage qui n'arrive pas à le lire. Et sur le pourcentage qui arrive à le lire correctement, j'entends, sans faire des fautes et sans blablater, etc., sans bafouiller plutôt, et sur le petit pourcentage d'élèves qui avaient réussi à le lire, il y en avait encore un pourcentage qui n'avait rien compris. C'est-à-dire, ils lisaient, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Et il restait un tout petit pourcentage de gens qui arrivaient à lire le texte, d'élèves qui arrivaient à lire le texte, et qui comprenaient ce qu'ils disaient. Donc, si ce n'est pas une destruction voulue de l'enseignement, franchement, qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que vous pensez de manière générale sur ces prochaines années? Déjà, bon, la prochaine échéance de 2022, est-ce que vous pensez que malgré tout, la situation est hors de contrôle?
Hors de contrôle, non, moi je suis quand même assez. J'essaye d'être optimiste quand même. Je me dis, bon, non, si les gens se réveillent, ça ne va pas être hors de contrôle. Si les gens ne se réveillent pas, oui, ça va être hors de contrôle. Ça veut dire que si vous voulez, on va se retrouver en 2022 avec un duel, si on peut appeler ça un duel, parce que vous comme moi, on connaît l'issue. C'est-à-dire, on va se retrouver avec Macron ou un de ses remplaçants, ou une de ses remplaçantes, parce que Jacques Attali, celui qui souffle à l'oreille des présidents, a dit que ça serait peut-être une femme, donc attention, contre Marine Le Pen. Et on va se retrouver avec la même histoire à chaque fois. Ah, il ne faut surtout pas voter Marine Le Pen, parce qu'il faut faire échec au Front National. Alors, je ne roule pas pour le Front spécifiquement, mais je raconte simplement ce qui va se passer. Évidemment, on va avoir donc la LREM ou un de ses représentants qui va être. Donc là, si j'ai un message à faire passer quand même aux gens, je leur dis aux gens, arrêtez déjà d'être abstentionniste, allez voter. Parce que déjà en France, on a un grand problème, c'est que le nombre d'abstentions, c'est qu'en fait, les politiciens sont élus avec très peu de votants.
Macron a
Qui
été
vote?
élu avec à peine 20%, en réalité 15% des Français, donc il n'a aucune
Absolument.
légitimité, comme le disait Arnaud Upinski.
Absolument. Mais le problème, c'est que parce que, en fait, qui vote aujourd'hui en France, ce sont les militants de chaque parti politique. Donc, ce sont eux qui votent. Donc, vous avez un pourcentage énorme d'abstentionnistes qui, eux, pour des raisons diverses et variées, ça peut être la politique, ils n'en ont rien à faire, ça peut être qu'ils ont envie d'aller à la pêche ce jour-là, ça veut dire, bon, ils n'ont plus confiance dans la politique. Bref, peu importe leur motivation, mais d'un autre côté, il faut vraiment qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils aillent voter. Alors après, pour qui voter? Je ne vais pas donner des consignes de vote, mais voter pour des petits candidats, arrêter de voter pour des machines de guerre qui de toute façon, ne changent rien dans ce pays et ne changeront rien pour l'avenir. Allez voter pour un petit. Et si vraiment les petits, ça ne vous va pas, votez blanc. Je sais que le vote blanc n'est pas reconnu, mais au moins, ça montre que vous avez été aux urnes et que vous avez voté et que vous n'êtes pas d'accord. Parce que s'abstenir, ça ne montre rien et ça fait le jeu, effectivement, des gens qui sont déjà en place.
Alors, dans votre livre, vous parlez beaucoup du système capitaliste et la façon dont il paye les fonds publics et donc l'argent du contribuable. Cependant, ce qu'on peut voir quand même, c'est que ce fameux système capitaliste emprunte des outils et une méthodologie qui est très proche du système communiste. C'est-à-dire quand, par exemple, le système de la sécurité sociale a imposé une médecine, en particulier, en l'occurrence, la médecine allopathique, la médecine qui traite les symptômes et pas les causes des problèmes, qui a mis de côté et diabolisé la médecine ancestrale qui est utilisée depuis très longtemps. Donc, on voit que la mise en place de ce système de sécurité sociale a imposé une médecine en particulier aux Français, une médecine en plus qui n'est plus à la hauteur de ce que les Français sont en droit d'attendre. Vous parlez, par exemple, qu'il faut attendre plus de 50 jours pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste en France. Est-ce que, justement, on parle aussi de démocratie, mais en fait, il n'y a pas de démocratie en France. Il y a des gens qui sont élus et qui ne rendent de compte à personne. On est dans un système qui est très particulier, où ça ressemble beaucoup à un système un peu communiste. Vous voyez, quand ils ont introduit le permis à points en France, un peu comme le système de crédit social en Chine, est-ce que vous voyez ces similitudes entre un pseudo-système capitaliste, cartellistique, monopolistique et un système communiste qui s'imbrique l'un dans l'autre?
Oh bah, oui, de toute façon, c'est imbriqué l'un dans l'autre, hein. Ça, c'est évident. Après, ce qu'on met en exergue aussi dans notre livre, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, en France, il faut le savoir, c'est que 7 Français sur 10 renoncent à se soigner. Alors, 7 Français sur 10, c'est énorme comme chiffre. Donc, en premier lieu, pour des questions aussi d'argent, parce que quand même, on nous montre que la France est un grand pays industrialisé, mon Dieu, où tout va bien, etc. Enfin bon, il faut quand même rendre compte qu'en France, où on en est à 15 800 000 pauvres. Ça veut dire, parce que le seuil de la pauvreté en France, c'est 800 euros. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 800 euros, vous êtes catalogué comme pauvre. Mais si vous gagnez 802 euros, vous avez dépassé le plafond. Et là, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Alors, vous m'avez compris, si vous gagnez 800 euros ou si vous en gagnez 802 ou 810, votre pouvoir d'achat, il ne va pas y avoir grand-chose de plus. Donc, et vous êtes toujours pauvre. Mais vous n'êtes plus catalogué comme pauvre, répertorié comme pauvre. En réalité, quand vous additionnez un peu tout ça, quand vous additionnez ceux qui sont au RSA, donc le revenu de solidarité active, ceux qui sont en attente d'emploi, ceux qui sont dans les agences nationales pour l'emploi, mais qui ne perçoivent rien, mais qui veulent travailler. On en arrive au chiffre énorme de 15 800 000 pauvres sur 32 millions d'actifs. Parce qu'en France, on a à peu près 32 millions d'actifs. On est 66 millions d'habitants. Donc, si vous retirez les enfants et les vieillards, on est à 32 millions d'actifs. Et là-dessus, nous avons 15 800 000 pauvres, ce qui est quand même énorme. Alors après, on en revient au système de soins. Oui, 7 Français sur 10 renoncent à soigner, d'une part, argent. Secondo, et on l'a évoqué tout à l'heure, pour un délai effectivement de plus en plus incroyable pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Mais même aujourd'hui, prendre un rendez-vous avec un dentiste, ou si vous déménagez aujourd'hui, vous changez de région en France, bah, allez trouver un médecin généraliste qui va vous prendre parce qu'ils sont tous soi-disant surchargés, et puis des dentistes, je vais vous dire, là, c'est pire que tout. Donc, c'est vrai qu'il y a une destruction systématique du système de soins. Il est vrai aussi que vous parliez tout à l'heure de médecine allopathique. Bah oui, la médecine allopathique, c'est la médecine des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques, bah écoutez, ils raisonnent comment pour soigner les gens ou
en c'est la médecine commerciale. D'ailleurs, j'aimerais juste vous poser une question particulière sur la vaccination. La vaccination est, a pour origine les financiers, la famille Rockefeller. Ce sont eux qui ont mis en place ce système de vaccination. Ils ont financé énormément d'écoles, d'écoles médicales, de formation médicale. Comment vous voyez aujourd'hui, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que le corps n'a pas besoin de vaccin pour se défendre de toute agression, parce que des virus, il y en a toujours eu. Mais on voit qu'il y a vraiment une propagande intense maintenant qui est en train de se dérouler pour forcer les gens à se faire vacciner. C'est du style, vous sortirez quand vous serez vacciné. On sent que c'est une prise d'otage. Ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui se passait dans l'Allemagne nazie. Ça ne vous inquiète pas, cette situation?
Ah, moi, je trouve ça très inquiétant, parce qu'avoir un passeport vaccinal maintenant pour aller au resto, quand ils seront réouverts, ou aller au café, boire un café, ou aller voir un film ou un concert, alors prendre un avion et prendre le train, ça va devenir encore pire. Il va falloir exhiber bientôt son passeport de santé. Coucou, bonjour, oui, je suis vacciné, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Non, mais ça devient infernal. Mais vous parliez à l'instant des laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, qui vont imposer le vaccin. Vous savez, c'est quand même très juteux. Moi, j'ai fait une petite enquête, on a fait une petite enquête sur le laboratoire Gilead, un laboratoire américain que je ne présente pas parce que vous en avez entendu parler. Rien que, par exemple, le médicament qu'ils ont sorti il y a quelques années qui s'appelle Arvoni, qui est un médicament pour lutter contre le virus de l'hépatite C. Bon, alors ça, le virus de l'hépatite C, quand vous avez une hépatite C, c'est quand même assez grave, j'en conviens. Mais ils ont sorti un médicament qui apparemment serait efficace, je ne rentre même pas dans le débat. En revanche, le prix, c'est le prix qui tue. 42 000 euros le traitement sur 12 semaines. Vous avez bien entendu, 42 000 euros. Ça veut dire qu'il y a 12 pilules à avaler, gloub, vous en avalez une chaque semaine, gloub, vous avalez 3 400 euros. Ah, quand même, ça calme. Mais alors, au niveau sécurité sociale, puisque tout à l'heure vous parliez de la sécurité sociale en France, bien évidemment que la Sécu, elle ne va pas prendre en charge 42 000 euros de traitement. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont la base des bases au niveau sécurité sociale en France, c'est-à-dire ceux qui sont à la CMU plus la CS, donc qui est une assurance de base pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, ceux-là, ils ont ici le traitement Arvoni, jamais. Et il n'y a que ceux qui gagnent extrêmement bien leur vie, c'est-à-dire des cadres supérieurs ou des directeurs ou des PDG, qui vont pouvoir se payer, parce que là, il y a une super mutuelle, ils ont des super mutuelles qui va peut-être compenser, et encore pas tout, le traitement. 42 000 euros. Tout comme le Gilead qui nous avait sorti le Remdesivir, vous savez, le médicament miracle qui était censé lutter contre la COVID-19, qui est en fait, parce que l'hydroxychloroquine, vous pensez bien, le médicament qui existe depuis 70 ans et qui était efficace contre le palu et éventuellement contre la COVID-19, qui coûte 3 euros la boîte. Alors ça rapporte plus d'argent. En revanche, sortir un Remdesivir à 2000 euros la dose, parce que là aussi, Remdesivir, c'est 2000 euros la dose pour 2 ou 3 euros, enfin 2 ou 3 dollars de fabrication. Ah, c'est pas mal comme coefficient multiplicateur. Moi, vous savez, je suis un ancien commerçant. Honnêtement, un produit où vous faites un coefficient multiplicateur comme ça, c'est encore du jamais vu. En plus, le Remdesivir est toxique. Ça veut dire que ça y est. Ça a été, c'est ni fait ni à faire, ça vous met les reins en compote. Donc voilà. Donc c'est vraiment une énorme mafia. Et là, on peut se dire qu'un laboratoire pharmaceutique, normalement, en essence, ils sont censés guérir les gens et faire en sorte qu'ils aillent mieux. Donc ils sont censés être un peu quand même altruistes. Or là, les deux exemples que je viens de vous citer montrent bien que l'altruisme, ils en ont cure. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement du bénéfice engrangé et que les actionnaires en poche. De toute façon, quand vous voyez qui est actionnaire des labos, moi, j'ai regardé un peu Gilead. Qui est actionnaire de Gilead? Vous retrouvez les mêmes. Hein. Vous retrouvez Vanguard et notamment BlackRock. Oh, BlackRock, le plus grand fonds d'investissement hedge fund de la planète, qui pèse je ne sais plus combien, 7 000 milliards. Enfin, je ne sais plus, un truc énorme. Il y a tellement de zéros que je n'arrive même pas, moi, à me faire une idée de tout ce que ça représente.
Est-ce que pour vous, c'est suffisant comme argument le fait qu'en France, chaque année, il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent des conséquences de la médecine allopathique, donc de la médecine chimique? Est-ce que vous pensez que c'est un argument suffisamment convaincant pour faire comprendre aux Français que cette crise du Covid est une crise fabriquée de toutes parts et c'est maintenant une crise politique qui vise un agenda bien particulier.
Alors, tout le problème, c'est est-ce que les gens vont le croire? Parce que le problème, voilà, c'est que comment les gens aussi. On en revient un peu au désir de s'informer, dont on évoquait le sujet tout à l'heure. En réalité, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dû aller passer une radio de la main parce que j'avais un peu d'arthrose. Bon, voilà, donc je voulais en avoir le carnet. Donc, on m'a dit, oui, c'est de l'arthrose. Bon, okay, c'est dû à la jeunesse éternelle, vous savez, du corps. Enfin, bon, bref, passons. Donc, j'attendais paisiblement le résultat de ma radio et j'ai un couple, donc papy, mamie. Bon, remarquez, je dis ça, ils avaient presque le même âge que moi, hein, parce que peu ou prou, maintenant, je suis un senior. Hein. Et je les entendais discuter. Alors, le monsieur, il sort catastrophé. Il dit, ah, mon Dieu, j'ai de l'arthrose. Il dit à son ah, ben, mon Dieu, de l'arthrose. Vous avez de l'arthrose. Ah, ben, mon Dieu. Ouais, mais alors, si tu as de l'arthrose, mais comment tu vas faire? Il va falloir s'opérer. Il va falloir que tu te fasses opérer. Mon Dieu, mon Dieu. Et j'écoutais leur conversation. C'était terrible parce que tout d'un coup, ça leur tombait dessus comme une massue. Et ces gens-là, qui ont mon âge, ne s'était jamais renseigné pour savoir l'arthrose, ben, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et comment on peut le combattre, pas nécessairement en se faisant charcuter, mais on peut peut-être essayer de prendre quelques plantes pour adoucir, etc., etc. Ben non, ils étaient, vous voyez, sur des rails, c'est-à-dire que sortis de leur univers de vie, hein, ils ne cherchent pas à essayer de se renseigner sur les côtés. Et je pense que c'est ça le grand malaise, c'est que beaucoup trop de gens sont enfermés dans un système de pensée. C'est-à-dire que, comme on l'évoquait tout à l'heure, ils sont chez eux ou ils rentrent chez eux, ils allument la télé et paf, ils se tapent le 20h de TF1 ou le 20h de France 2 ou Arte ou un autre journal. De toute façon, c'est tous quasiment les mêmes et c'est un matraquage et on ne regarde pas ce qui se passe autour, on n'essaye pas de se renseigner. Donc, évidemment, ça fait un peu une espèce de chaîne sans fin, vous voyez. C'est pour ça que j'essaye toujours de dire aux gens, mais mon Dieu, essayez un peu de regarder aussi par vous-même. Il n'y a peut-être pas nécessairement qu'une seule voie, peu importe que ce soit une voie médicale ou une doxa gouvernementale, il y a peut-être d'autres voies à regarder, à explorer et peut-être à se faire une opinion, vous voyez. Je pense que c'est ça qu'il faut changer, cette espèce de, chez beaucoup de gens, c'est cette espèce d'état d'esprit où, mon Dieu, sorti de sa petite vie, on s'intéresse à rien d'autre. Ben si, justement, parce qu'il devrait s'ouvrir, parce qu'on ne vit pas tout seul, ni avec juste sa famille, on vit aussi avec d'autres gens, on vit avec des animaux qui sont autour, on vit sur une planète où on est tous, plus ou moins, qu'on le veuille ou non, en interaction. Même si on ne se connaît pas, on est tous en interaction. Et tous, on a un rôle à jouer sur cette planète. Donc, je pense qu'il serait, s'il y a un message à faire passer, c'est hey, mon Dieu, les gens, réveillez-vous un peu là, allez regarder un peu autour ce qui se passe et vous verrez. Vous penserez mieux, vous dormirez mieux, je pense. Voilà. En
Alors,
gros.
petit tuyau juste pour l'arthrose. La cause de l'arthrose principale, c'est les produits laitiers. Parce qu'aujourd'hui, on a
Oui.
un corps qui n'est pas adapté à la consommation de produits laitiers
C'est vrai. Quand j'étais
de
jeune,
manière massive, entre le lait, les fromages, etc. Si vous coupez les produits laitiers, vous allez...
Je suis tout à fait, c'est tout à fait vrai ce que vous me dites, mais vous savez, moi, j'ai parti d'une génération, quand j'étais gamin et tout, on nous abreuvait de lait. Vous savez, c'était le grand truc à l'époque, fallait du
Et
lait,
les
merci.
lobbies disaient aussi que c'était bien de consommer du lait pour les os, etc., alors
Voilà.
que c'est de la propagande, c'est de la vraie propagande.
Alors aujourd'hui, du lait, j'en bois plus. Bon, c'est vrai que je suis amateur de fromage, mais bon,
Ah,
ça
voilà.
fait. Je reconnais qu'un petit morceau de fromage avec voilà, un petit verre de vin. Notamment, tiens, un petit vin du Valais chez vous, c'est pas mal non plus. Vous avez des excellents vins ensuite, avec
Alors,
modération, quand même.
Claude Janvier, on arrive à la fin de cette interview. Je rappelle que vous avez écrit, coécrit avec Jean-Loup Isambert, Le virus et le président. Vous avez aussi l'intention d'écrire d'autres ouvrages ces prochains mois. Donc, on attend avec impatience que vous allez nous sortir. Dernière question, quels seraient les conseils que vous donneriez aux Français aujourd'hui, étant donné la situation, les enjeux? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui à retenir, selon vous, et votre analyse de la situation?
Je pense qu'il faut se réveiller. Je pense qu'il est vraiment le temps de bouger. Je pense que si on ne bouge pas, on n'en sortira pas. Je pense que beaucoup de Français s'imaginent qu'une fois qu'ils seront vaccinés, tout va aller pour le mieux. Je pense qu'effectivement, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce qu'ils vont nous inventer d'autres variants, d'autres souches, etc. Et qu'il y aura un beau jour un autre virus qui va arriver, on n'en sortira pas. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'on est à un tournant. Je dirais presque un tournant historique, mais pas dans le bon sens du terme cette fois-ci. C'est-à-dire que si on n'y met pas un frein, ça va continuer. Ça va continuer parce que les gouvernements sont dans une espèce de rouleau compresseur où il n'y a plus moyen de freiner. Donc il va falloir les freiner. Et le seul moyen pour les freiner, c'est de montrer de façon large notre désaccord. Voilà, je pense que c'est ça l'important.
Claude Janvier, merci beaucoup pour cette interview. Partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté ainsi qu'au canal France Liberté sur Telegram pour avoir des informations, des confidences et d'autres informations spéciales, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur franceliberté.tv. Merci encore, Claude Janvier.
Merci à vous, et c'est très sympa de m'avoir invité. Et puis écoutez, continuez, c'est très bien ce que vous faites. Voilà, merci beaucoup.
Merci.